Autre sujet qui fait débat, madame, monsieur, et qui découle de la polémique justement de jeudi à l'Assemblée nationale, ce sont ces 1000 migrants à bord de 4 bateaux humanitaires qui tentent actuellement de rejoindre l'Europe. L'Italie aurait accepté d'accueillir l'un d'entre eux, mais les informations de ce point de vue restent encore incertaines. Est-ce qu'on risque d'assister encore une fois à une espèce de petit jeu de rejet de responsabilité entre la France, l'Espagne et l'Italie? Personne n'osant prendre la responsabilité d'accueillir ces malheureux migrants.
Marion Parizet. Oui, nécessairement, parce que donc il y a cette difficulté à accepter les migrants. Giorgia Meloni a été élue parce qu'il y a un problème avec la crise migratoire en Italie. Aussi parce qu'il y a un problème économique en Italie qui fait que l'Italie et le peuple italien ne s'est jamais relevé des crises de 2008 et de 2010-2011, mais parce qu'aussi il y a cette impression d'être complètement laissé à l'abandon par l'Union européenne qui avait promis une solidarité collective, de se prendre en charge la sécurisation des frontières et de pouvoir assurer la répartition des migrants sur le sol européen et donc de venir délester l'Italie qui accueille, selon le ministre de l'Intérieur italien, il parle quand même de 85 000 personnes qui seraient arrivées sur le territoire italien depuis le début de l'année 2022, ce qui est un chiffre complètement effarant si on le prend en tant que tel. Après, il y en a certains qui sont redispatchés, il y en a qui... mais ça reste 85 000 personnes. Et aujourd'hui, Giorgia Meloni, elle est obligée d'être ferme si elle entend pouvoir conserver toute la confiance qui lui a été faite pas à travers l'élection, parce que les gouvernements italiens, ils ont subi justement une forte décrédibilisation, et c'est sur un rejet de la décrédibilisation de l'action des précédents gouvernements, des gouvernements d'unité nationale, qu'elle a pu réussir à émerger. Donc elle a intérêt à être ferme.
Situation inextricable, Jonas Haddad, par rapport, encore une fois, à ces 4 bateaux et ces 1000 migrants qui sont actuellement en train de, pardonnez-moi l'expression, de faire des ronds dans l'eau, finalement, en Méditerranée.
Mais ce qui est certain, c'est qu'en la matière, le « en même temps » ne sera pas possible. C'est-à-dire que le gouvernement devra prendre un choix. Autant sur le projet de loi sur l'immigration qui nous est présenté actuellement, on voit bien la tentative du gouvernement de faire du « en même temps ». C'est-à-dire, en gros, on régularise les travailleurs massivement. Et d'un autre côté,
on durcit les
expulsions. Là, on ne pourra pas le faire. Et c'est très compliqué, lorsqu'on se heurte au réel, de faire du « en même temps ». Deuxièmement, si on prend un peu de recul par rapport à ça, on a invoqué l'état d'urgence sanitaire à l'occasion de la crise du Covid. Là, Emmanuel Macron évoque hier l'état d'urgence écologique avec un certain nombre de personnes avec qui il échange sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a urgence à décréter l'état d'urgence migratoire. Voilà maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années, que des actes de violence gravissimes sont commis dans notre pays par des gens qui sont en situation illégale. C'est assez effarant. Là, on a une autre situation, mais qui concerne également des sujets migratoires. Il faudrait vraiment que le gouvernement, et on sait qu'il sait le faire, quand il y a eu des crises sanitaires, il sait prendre les décisions fortes et quasiment autoritaires pour l'imposer. Il faudrait que le gouvernement puisse se saisir de ces sujets-là. Sinon, malheureusement, ou heureusement pour d'autres personnes, effectivement, le scénario à l'italienne se reproduira pour nous. Le déni gouvernemental sur ce sujet ne fait qu'accroître ça. D'ailleurs, lorsque le président Emmanuel Macron a proposé un moment une alliance avec les Républicains, on sait bien ce qui bloque dans cette alliance potentielle. C'est le déni gouvernemental sur ce sujet-là. Si le gouvernement était davantage lucide ou au moins concret dans les actes qu'il pouvait prendre, je pense qu'à ce moment-là, les divergences ne seraient pas si importantes. Mais c'est un impensé du macronisme parce que ça ne rentre pas dans un logiciel. Et là, lorsque vous avez, c'est simple, vous avez des bateaux sur la mer, et la question se pose, est-ce que vous accueillez ou vous accueillez pas? Vous ne pouvez plus faire de grands discours théoriques. Vous ne pouvez plus parler de palimpseste ou de perlimpinpin. Il faut donner des réponses.
Dernier sujet que je souhaiterais aborder avec vous, il nous reste quelques minutes seulement, c'est ces actions coup de poing d'activistes climatiques contre les musées. Dernier exemple en date, 2 militants qui se sont collés les mains cet après-midi sur un tableau de Goya, plutôt sur le cadre d'un tableau de Goya au musée du Prado de Madrid pour dénoncer l'inaction climatique. Est-ce que, Marion Parizet, c'est quoi? C'est l'expression d'un vrai désespoir ou d'une bêtise crasse?
J'aurais envie de répondre les deux d'une certaine manière. Il y a parce que le désespoir, il est subjectif. Il y a ce concept de d'éco-anxiété qui est beaucoup porté. Et on connaît aussi dans l'histoire des phénomènes de société, d'anxiété collective qui se sont créés après des œuvres type l'effet Werther qui a entraîné des suicides de masse chez des jeunes parce qu'il y avait un effet de mode. Là, on a aussi peut-être avec un ressentiment qui individuellement, je ne le nie pas parce que les subjectivités, c'est ce que c'est. Mais derrière, on a une recherche du buzz qui peut totalement nuire en fait à la recherche réellement de progrès sur la question de la lutte contre les dérèglements climatiques.
Prise de conscience.
Parce que oui, prise de conscience, mais une prise de conscience qui ne s'appuie pas nécessairement sur des faits et sur des approches
sur des factuels,
scientifiques.
Ouais.
Et c'est bien ça le problème, c'est qu'on est sur des personnes et notamment des jeunes qui aujourd'hui ne sont pas dans la recherche de solutions avec une idée de débat et de construire quelque chose de collectif, mais qui sont juste dans la provocation, dans le buzz. Et ce qui inquiète en particulièrement, c'est que la lutte contre le débat, enfin cette absence de débat ou cette volonté de rejet du débat, elle passe aussi par l'embrigadement d'un certain nombre de jeunes, notamment dans les universités. Et je pense qu'il y a beaucoup qui ne sont absolument pas conscients de fondamentalement les raisons ou les détails techniques ou les questions vraiment profondes sur lesquelles ils travaillent. Et ça s'est vu sur Sainte-Soline.
Jonas Haddad, votre sentiment sur ces actions-là qui se développent et qui ont l'air d'être complètement, comment dirais-je on ne peut plus les maîtriser, quoi. Les pouvoirs publics sont complètement impuissants par rapport à ces types de manifestations.
Moi, j'ai l'impression d'avoir affaire là à une génération de personnes qui sont persuadées détenir la vérité révélée. C'est de l'ordre du religieux. Quand on commence à détruire des œuvres d'art ou du patrimoine culturel mondial, c'est de l'ordre du religieux. Des gens qui considèrent que les autres générations ne s'en occupent pas du tout, alors que pourtant, je pense que c'est aujourd'hui un consensus sur l'urgence climatique. Et enfin, des gens qui ont basculé d'un côté, qu'on soit dans un combat écologique, il n'y a pas de problématique, mais qui ont basculé d'un côté qui n'est plus celui ni du droit, puisqu'en fait, ils enfreignent la loi, d'abord, ni celui forcément du caractère intelligent de leurs convictions. Je pense qu'on peut partager ces convictions et se dire qu'on peut les faire passer d'une façon dans laquelle, un, on respecte la loi, et deux, dans laquelle on est intelligent. Alors, j'entendais la dernière fois, et j'en terminerai par là, une jeune fille dire, du haut de ses 25 ans, avec un aplomb incroyable, que si les femmes ne s'étaient pas battues à l'époque, elles n'auraient pas eu le droit de vote et s'il n'y avait pas enfreint la loi. Vous savez, c'est des désobéissances civiles qui est toujours autorisée d'un certain côté de l'échiquier politique. Et elle se trompait fortement parce qu'à l'époque, c'était plutôt la gauche qui ne voulait pas que les femmes puissent voter pour suivre les indications du curé. Donc le côté religieux et quasiment mystique de ce que font ces gens-là est un peu ridicule et je pense que ça dessert leur cause.
Merci à tous les deux. Merci Marion Parizet, spécialiste en politique publique. Merci Jonas Haddad, coprésident de la Fondation Concorde. Dans un instant, le journal de 19h, juste après l'invité de la rédaction, Amine El Bahi, lanceur d'alerte sur les risques de l'influence islamiste dans les quartiers populaires. Il publie « Je ne me tairai pas », livre témoignage sur son parcours. A tout de suite.